Vous allez écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.
Et bonjour à tous, à vous toutes, auditeurs et auditrices qui êtes à l'écoute pour cette reprise du Fréquence Geek. Ici votre animateur Bastien qui vous parle, à nouveau sur les ondes de la radio RTVFM en ce mois d'octobre 2020, pour vous livrer comme toujours les nouvelles news sur l'actu gaming, manga et bien d'autres touche-à-tout de l'univers des otaku. Au programme de ce mois-ci, tout d'abord, une petite chronique dédiée à la série de jeux vidéo Crash Bandicoot en raison de la sortie officielle du 4e opus survenue au tout début de ce mois-ci sur PS4, Xbox et PC, bien qu'il s'agisse en réalité du 12e jeu vidéo mettant en scène le fameux marsupial orange de Naughty Dogs. Après quoi, on ira à la rubrique manga, film et animation, dans laquelle je vous parlerai de la nouvelle adaptation de Shaman King, cette fois-ci entièrement centrée sur le manga et non sur le storyline semi-HS qui sortira en début d'année 2021. Avec en prime un petit retour aux sources pour ceux qui n'ont jamais eu le plaisir de découvrir l'œuvre, même de la connaître et de vous donner une bonne mise en bouche, et plus particulièrement à celle de la génération des moins de 20 ans. Puis viendra ensuite les sorties en vrac de ce mois-ci, et enfin nous finirons avec l'actualité du moment, qui remplacera pour quelque temps la rubrique des événements à venir en raison des restrictions imposées aux conventions suite aux mesures sanitaires liées au Covid-19. Et tout de suite, direction la section jeux vidéo et jeux sur table pour le Crash Bandicoot. Donc après un remake HD sorti le 30 juin 2017, le marsupial intrépide et sa petite sœur Coco nous refont leur comeback sur le devant de la scène avec un opus qui non seulement servira de suite à la franchise, mais également de reboot à la série, de ce qui a été l'un des plus gros jeux de vidéo plateforme qui a fait ses débuts sur la PS1 en 1996. Pour anecdote, Crash Bandicoot est un personnage qui, à la base, fut inventé par Naughty Dogs, une société américaine de développement de jeux vidéo domiciliés à Santa Monica, qui fut fondée en 1984 par Andy Gravin et Jason Rubin. Sous le nom de James Software, avant d'être prise par R.R. Celestin en 1989, qui se renommera ensuite Naughty Dogs, la société a comptabilisé un total de 10 employés à ses débuts et a fini comme une micro-entreprise de 25 salariés. L'origine de ce changement de nom est assez particulière puisqu'il s'agit quand même d'une histoire assez peu commune. En effet, Andy Gavin, alors qu'il n'était qu'un adolescent, travaillait avec son ami Jason Rubin dans leur garage au développement de leur premier jeu vidéo quand il vint de perdre sa chienne nommée Morgan entre-temps. Ce sera donc pour rendre hommage à celle-ci que Andy et Jason renommeront leur studio Naughty Dogs, connaissant ainsi un nouveau départ en 1994, après un accord passé avec Universal Interactive pour 3 jeux, alors que la compagnie s'installe en Californie et prend une nouvelle dimension en recrutant du personnel qualifié. Pendant 2 années, le studio développe alors ses premiers jeux en 3D, et la boîte commença alors à se faire un nom et à signer des contrats avec le président d'Universal Interactive Studio et producteur exclusif de Crash Bandicoot. Ce sera à ce moment-là donné que le jeu de plateforme Crash Bandicoot verra le jour en 1996 sur PlayStation et dont le personnage principal, Crash, devait à la base servir de mascotte à l'entreprise filiale de Sony. Cependant, cela n'a jamais été officialisé et Sony n'a à ce jour toujours pas reconnu la mascotte comme telle. Du coup, Crash Bandicoot, aux côtés de Spyro, le dragon violet, devient un grand symbole de toute une génération de joueurs de PlayStation sans pour autant être officiellement reconnu comme tel par Sony. Après cela, vint la sortie de 2 autres opus qui seront nommés Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back et Crash Bandicoot 3 Warped, en guise de suite officielle du tout premier opus, suivi du jeu Crash Tag Team Racing, mettant cette fois-ci en scène tous les personnages de la licence dans un même jeu de course taillé façon Mario Kart, qui connaîtra également un franc succès. Cependant, les liens entre Naughty Dogs et Universal finiront par se détériorer, ce qui mettra notre Bandicoot préféré sur la touche pendant un bon moment. Cependant, la franchise ne s'arrêtera pas là pour autant. En effet, alors que Naughty Dogs devient une branche d'éditeurs en jeux vidéo pour Sony en 2021, Universal quant à lui décide malgré tout de continuer à relancer la carrière de leur mascotte à l'abandon auprès d'autres studios de développement gaming. Ainsi donc, ce seront les studios Traveller Tales ALD, Dimps, Radical Entertainment, Various Vision, Pinox et tout dernièrement Toy for Bob qui reprendront tour à tour la suite en main. Et que naîtra alors les jeux Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex, Crash Twisty, Crash of the Titan, Crash Generation Mutant et le remake des 3 premiers opus Crash Bandicoot Insane Trilogy et le tout nouveau Crash Bandicoot 4, Tissa Boost Time qui reprendra l'histoire à la fin du 3ème volet et ignorera tout du reste dans le but de servir de suite officielle pour les plus jeunes découvreurs de la licence. On va maintenant vous faire une petite pause musicale et je vous retrouverai alors juste après pour la rubrique manga, film et animation. Du coup je vous dis à tout de suite sur Fréquence Geek.
dancing, fancy hats and pretty girls with pretty smiles, all decked out in the latest styles, breathtaking, hip shaking, cute as now, talking about some fascinating, devastating beauties now. All the soul brothers, jitterbuggers, hip cats in fancy hats and pretty girls with pretty smiles, all decked out in the latest styles, breathtaking, hip shaking, cute as now, talking about some fascinating, devastating. Devastating beauties now.
Et nous revoici pour la suite de notre émission sur Fréquence Geek sur RTVFM. Chers auditeurs, chères auditrices, toujours ma bonne compagnie. Pour notre section manga, film et animation dédiée ce mois-ci au retour annoncé de Shaman King sur les écrans. Alors Shaman King, au sujet de la nouvelle animation, pour vous faire un rapide résumé historique de ce qu'est Shaman King, il s'agit d'un shonen manga écrit et dessiné par Hiroyuki Takei, qui avait été prépublié en 1998 dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et a été compilé en un total de 32 tomes, tandis que la version française du manga quant à elle sera bien plus tard détaillée en intégralité par Kana en 2004, soit 3 ans après la sortie de l'anime semi-HS du Japon. En effet, c'est en 2021 que le manga avait été adapté en série télévisée d'animation de 64 épisodes, réalisée par Seiji Mizushima et diffusée sur la chaîne japonaise TV Tokyo. La version occidentale de l'anime a été modifiée par 4Kids et comporte des censures, changements de dialogue, modifications de la bande son originale, retouches d'image, etc. pour mieux correspondre au format US. On notera également que 3 coffrets DVD de cette version furent édités par Déclic Images en France quelques mois après la fermeture de la chaîne d'animation Jeunesse Force Kids de Canal Satellite. Niveau synopsis, nous suivons les aventures du jeune chaman Yu Asakura, désireux de devenir le prochain roi des chamans, et non, je ne fais en aucun cas la moindre référence à One Piece qui, avec Luffy, veut devenir le roi des pirates, et de son ami Genta, un enfant ordinaire qui a cependant une faculté certaine à pouvoir voir les esprits et à communiquer avec eux. Ensemble, accompagnés de Ami Damaru, un esprit défunt qui fut un grand samouraï de son vivant, ils vont nous emmener dans un monde de surnaturel façon shonen, au cours duquel ils feront face à beaucoup d'adversaires tous enclins à voir devenir le roi des chamans, dont le magnifique Zeke, aspirant à vouloir obtenir le pouvoir des esprits pour réaliser de bien sombres ambitions auxquelles il aspire tant. Il sera également bon de noter qu'en plus de l'histoire principale, des histoires courtes ayant servi de préquel à la série avaient également été publiées entre novembre 2021 et octobre 2014, toujours dans le wiki Shonen Jump, mais cette fois-ci dans leur magazine Jump Kei, puis regroupées en 2 volumes reliés sous le titre de Shaman King Zero. D'ailleurs, une suite de Shaman King nommée Shaman King Flowers avait même été prévue et fut par la suite publiée entre avril 2012 et octobre 2014 dans le magazine Jump Kei, comme toujours, de l'éditeur Shueisha. Et c'est donc dans cette mini-suite qu'on y suivait cette fois-ci l'histoire de Anna Sakura, le fils de Yo, 14 ans après la fin de l'histoire principale. C'est un spin-off de 5 chapitres nommé Futabari no Uta, aussi basé sur Anna Sakura, et avait également vu le jour au Japon, et avait été inclus dans les tomes 32 de l'édition américaine du manga. J'ajouterai à tout cela qu'en fin 2017, Kodansha avait également par ailleurs racheté les droits de la série Shaman King afin de proposer une nouvelle édition du manga original et des dérivés issus de la série, et qu'à l'occasion des 20 ans du manga, un nouvel arc intitulé The Superstar fut publié depuis mai 2018. La série avait atteint sa conclusion, mais en raison de la complexité des derniers volumes, Shaman King, qui avait tout pour lui, semblait désormais avoir perdu de sa superbe, à tel point qu'il fut un grand oublié du panthéon mythique du manga. C'est vous dire, autant Dragon Ball et Naruto, quasiment tout le monde de nom connaît le manga sans jamais forcément avoir lu un chapitre de l'ouvrage, autant Shaman King, on lui sonnera vite un nom certainement étranger auprès de pas mal de lecteurs manga des années 2000. Cependant, il y a maintenant 2 mois de cela, l'annonce d'un nouvel animé de Shaman King fut annoncée pour début 2021, et dont la trame principale sera bel et bien basée intégralement sur celle du manga et non sur une trame HS sortie de nulle part comme ce fut le cas pour 2004. Ce sera donc l'opportunité pour la licence de Shaman King de se retrouver à son âge d'or une nouvelle fois, et qui je l'espère, suite à sa sortie, redeviendra un manga dont le nom fera parler n'importe quel otaku digne de ce nom, ayant moins de 20 ans. Il est maintenant temps pour nous de faire une nouvelle pause musicale, et on se retrouve juste après pour les sorties en vrac, suivies de l'info geek du mois. Allez, à tout de suite sur Fréquence Geek. Come on, let's get away. Et nous sommes de retour pour cette troisième partie du Fréquence Geek, cette fois-ci dédiée aux sorties en vrac, et on commence de suite, chers auditeurs, chers auditrices, avec l'une des licences phares de Ubisoft, j'ai nommé Assassin's Creed. Alors là, il s'agit de Assassin's Creed The Mindstorm Volume 1 et Assassin's Creed Blade of Shadow Volume 2. Manabook continue encore et toujours de célébrer le jeu vidéo sous toutes ses formes au travers des licences les plus importantes, et notamment pour ce mois-ci, celle-ci est dédiée à la franchise des assassins les plus badass de Ubisoft, avec les sorties manga de Assassin's Creed Blade of Shadow Jun et celle du nouveau roman Assassin's Creed The Mindstorm. Les deux ouvrages mettent en scène l'histoire de la femme assassin Shao Jun, qui était autrefois une ancienne concubine de l'empereur Zhengde, devenue à la mort de ce dernier une membre de la confrérie chinoise des assassins, et résumant ensuite son affrontement face à Zhang Yong, l'implacable chef des 8 tigres de l'ombre des Templiers, afin de restaurer le pouvoir impérial de la dynastie Ming, mise en péril par ce dernier. Globalement, même si les deux œuvres se basent sur le matériel storyline du personnage, il ne fait nul doute que le manga semble partir sur un angle de vue différent de celui du roman. En effet, si le manga est capable de donner une excellente mise en scène que même le néophyte peut suivre, certains éléments sembleront être quelque peu survolés, voire suivre un chemin un peu détaché et donc moins fidèle au matériel d'origine pour les plus connaisseurs d'entre vous que celui que proposera le roman en raison de la différence des deux formats. Dans tous les cas, si vous êtes amateur de manga axé conspiration, théorie du complot et tiré de quelques faits historiques, je ne saurais que trop vous recommander qu'une chose. Choisissez le format que vous préférez et lisez-le jusqu'à sa dernière page. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Ensuite, ONA de Burn of the Witch. Alors, disponible uniquement en streaming sur le net pour ce mois-ci, Burn the Witch est l'animation ONA, ou Original Net Animation, aussi plus clairement appelé un webanime tiré d'un one-shot, en clair un manga résumant son concept en un seul chapitre, écrit et dessiné par Tite Kubo en personne et se déroulant dans le même univers que celui de son œuvre phare, le manga Bleach. Cependant, contrairement à l'histoire de Ichigo Kurosaki et Rukia Kuchiki, le scénario ne se base pas au Japon mais en Angleterre et la thématique abordée vise plus la sorcellerie que le domaine des esprits et nous propose donc un synopsis bien différent qui est le suivant. Alors, historiquement, 72% de tous les décès de Londres sont liés aux dragons. Des êtres fantastiques, invisibles et pour la majorité des gens, mythiques. Bien qu'ils soient inconnus de la plupart des personnes, certains ont tenu tête à ces dragons. Seuls les habitants de la partie cachée de Londres peuvent voir ces entités mystérieuses. Mais parmi ces gens, à peine quelques rares élus deviennent des sorciers ou des sorcières. Seuls des êtres habilités à rentrer en contact avec eux en sont capables. Les protagonistes de l'histoire sont le duo de sorcières Noel Nishashin et Niyi Spangolk. Elles sont des agentes de la protection Wingbind, une organisation qui va pour la conservation et la gestion des dragons. Leur mission est donc de protéger et de gérer les dragons de Londres au nom de la population. L'ONA comportera un nombre total de 3 épisodes, faisant chacun 23 minutes et sera visionnable uniquement sur le site Crunchyroll. Je vous noterai aussi qu'un abonnement mensuel au site devrait, selon certaines sources, vous donner accès aux épisodes en avant-première. Donc, conditions d'abonnement à vérifier, mais surtout une trilogie de ONA à regarder absolument si vous avez aimé Bleach. Mario Kart Live Home Circuit. Ce mois-ci, on peut dire que Nintendo a vraiment fait dans l'innovation. En effet, disponible sur Switch au beau milieu de ce mois-ci, Mario Kart Live est le premier jeu de karting en réalité augmentée, puisqu'il s'agit là de piloter un kart dans le monde réel en utilisant des commandes bien connues de Mario Kart. Vous suivrez donc toute l'action de la course sur votre console ou votre téléviseur de salon grâce à un bolide, tandis qu'à travers l'écran, vous verrez votre salon se transformer en circuit aquatique, désertique et bien d'autres décors issus de l'univers Mario Kart. Le système de réalité augmentée du jeu est doté de fonctionnalités qui, à l'aide de portiques et de marqueurs fléchés, servent à dessiner le circuit et d'un kart téléguidé doté d'une caméra embarquée. Le tout étant relié par une connexion Wi-Fi via la Switch. Grâce à cela, vous pourrez alors zigzaguer entre vos meubles tout en gardant à l'œil vos adversaires et les objets qui parsèment le circuit. En clair, tout ce qui se passera en jeu aura un impact réel sur la conduite de votre kart. Utiliser un champignon le fera accélérer et vous faire par exemple toucher par une carapace rouge le stoppera net. Pour peu que chaque participant possède une Nintendo Switch, un kart et un exemplaire du jeu, jusqu'à 4 joueurs peuvent participer ensemble à des courses qui s'annoncent riches en rebondissements. Mario Kart Live Home Circuit est disponible en deux versions. Vous aurez donc l'ensemble Mario ou l'ensemble Luigi. Dans chaque ensemble, vous trouverez les composants suivants au prix moyen de 100€ dans tous les points de vente participants. Vous aurez donc droit à un kart téléguidé Mario ou Luigi selon le pack acheté, 4 portiques Wi-Fi, 2 marqueurs fléchés, un câble de recharge USB et enfin un jeu Mario Kart Live Home Circuit, World of Warcraft Shadowlands. On va finir cette section sur le plus gros morceau gaming du mois, et c'est bien sûr la nouvelle extension Shadowlands de World of Warcraft. Disponible sur la fin de ce mois-ci, Blizzard invite sa communauté WoW dans un voyage pour l'au-delà. Shadowlands est la 8e extension de World of Warcraft, et celle-ci nous conduira dans le Royaume des Ombres, une région dissimulée jusqu'à maintenant par le voile de l'éternité. Vous devrez donc parcourir le Royaume des Morts pour obtenir l'aide des 4 congrégations qui se partagent Ombre-Terre, et pour en apprendre plus sur les plans du mystérieux geôlier. Niveau contenu, nous avons déjà des éléments généraux confirmés sur la nouvelle extension qui seront les suivants. L'Ombre-Terre est constituée en 5 régions, Rivendell, Sylvarden, Maldraxxus, Bastion et l'antre, avec pour capitale principale de l'extension la ville d'Oribos. Vous auriez aussi une fonctionnalité Les Tourments, la tour des damnés, qui est un nouveau jeu de challenge propre à l'extension située dans la région de l'antre. L'extension introduit un level switch également, c'est-à-dire qu'en fait le niveau maximum de la sortie du pré-patch est de 50 et de l'extension qui permet de progresser ira jusqu'au niveau 60 et proposera de nouvelles options de personnalisation pour les personnages qui seront disponibles pour toutes les races. Les objets légendaires intimement liés au lore du jeu reviendront également dans Shadowlands. Il sera d'ailleurs désormais possible de fabriquer le légendaire de son choix et d'y appliquer des effets bien spécifiques. On proposera également un total de 8 nouveaux donjons et d'un nouveau raid qui seront disponibles dès la sortie de l'extension. Au niveau des prix d'achat, vous aurez le choix entre l'édition de base de 40€ dont l'accès à l'extension de Shadowlands, l'édition héroïque qui est le contenu de base ainsi qu'un sésame pour atteindre un niveau 120 dès la création des personnages, la monture volante Wyrm Vern ensorcelé et l'ensemble de transmogrification Habit du Voyageur Éternel. Édition épique, contenu de l'édition héroïque ainsi que 30 jours de temps de jeu, la mascotte Wyrm d'Anima, l'apparence d'arme illusion au froid éthéré et l'effet Voyageur Éternel pour la pierre de foyer. Il est maintenant temps pour nous de faire une nouvelle petite pause musicale et la dernière de notre émission et je vous retrouve juste après pour l'info du mois. Allez, à de suite sur Fréquence Geek.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
et nous sommes de retour sur le Fréquence Geek, chers auditeurs, chères auditrices. Non pas pour vous faire un mauvais tour comme le ferait la Team Rocket dans Pokémon, mais pour vous faire la dernière partie de notre émission dédiée à l'info du mois. Alors, Nintendo contre l'UFC, que choisir ? Alors, après Apple versus Epic Games sur le retrait de Fortnite du Apple Store, c'est au tour de Nintendo de faire face cette fois-ci avec la justice de la consommation défendue sévèrement par l'UFC, que choisir ? Bien que cela ne date pas d'hier, l'association de défense des consommateurs avait déjà accusé Nintendo depuis quelques temps déjà, que le constructeur japonais avait volontairement négligé le problème du Joy-Con Rift rencontré par des manettes de Nintendo Switch. Et finalement, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'une plainte pour obsolescence programmée a été déposée à la fin du mois dernier. Pour rappel ce que c'est que le Joy-Con Drift, pour les moins connaisseurs et connaisseuses d'entre vous, il s'agit d'un problème de manette assez embêtant, puisqu'il provoque des mouvements inopinés du stick, produisant ainsi une action à l'écran, même si on n'y touche pas. S'il arrive que le problème touche les deux Joy-Con, il affecte plus souvent la manette gauche, qui est généralement exploitée pour gérer les mouvements du personnage à l'écran, tandis que le droit gère principalement les mouvements de la caméra. Aujourd'hui encore, les internautes se divisent en deux camps sur l'origine du Joy-Con Drift. Pour certains, c'est la poussière ou d'éventuels débris qui ont pu se retrouver à l'intérieur des manettes, et pour d'autres, c'est l'usure des composants internes qui explique le bug. Afin de prouver ce second point, des joueurs sont même allés jusqu'à démonter complètement leur console. Si malgré tout cela, le fan mode de l'histoire restait du ressort Nintendo, aujourd'hui ce n'est plus le cas. En effet, selon le journal du Monde, l'UFC Que Choisir aurait confié une analyse complète des éléments de la manette à des experts, ce qui aurait amené au rapport stipulant que les experts auraient trouvé des composants liés à deux causes pouvant expliquer le problème, soit une usure prématurée des circuits imprimés, soit un défaut d'étanchéité qui entraîne une quantité inquiétante de débris et de poussière au sein du joystick. En clair, on n'est toujours pas avancé. Hein. On est au même point spéculatoire que ce que les internautes pensaient déjà depuis un petit moment avant cela. Tout n'est que spéculation et rien n'est encore sûr pour le moment. Et quoi qu'il en soit, si Nintendo France s'était jusqu'à maintenant engagé à réparer les manettes défectueuses même en dehors de la période de garantie, le groupe ne semblait toujours pas être prêt de s'attaquer à la source du problème de la conception de la fabrication de ces manettes. C'est ce que l'UFC Que Choisir lui reproche aujourd'hui avec une plainte qui, on va le dire clairement, est un minimum justifié. Quand on sait qu'une paire de Joy-Con neuve est à un prix coûtant allant de 60 à 80 euros en grande surface et qu'il ne tient qu'en général que 6 à 8 mois, voire au mieux un an selon le rythme de jeu du joueur, oui, ça fait vraiment très mal au portefeuille. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir ce que risque Nintendo au niveau des peines et des indemnités liées à cette affaire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est la plainte qui a, pour ainsi dire, cassé les 35 ans de Mario le mois dernier. Et c'est maintenant la fin de notre émission, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Fréquence Geek. Allez, à plus.
Vous venez d'écouter l'émission Fréquence Geek, présentée par Bastien sur RTVFM.